pense qu'il y a un rééquilibrage du rôle de la maman et du papa qui aujourd'hui, est, je pense, elle est fondamentale pour l'équilibre de nos enfants. L'importance qui est de passer du temps et puis de temps d'attention. Une découverte fortuite d'une une petite malformation chez notre fille. On est passé un peu du plafond à la cave.
Être père aujourd'hui à l'heure de la crise sanitaire. Le réseau de périnatalité Auréane donne la parole au papa en période post-natale. Devenir père est une étape particulière, chargée d'intenses émotions positives, mais parfois de doutes, voire de craintes. Dans une société en pleine évolution, la place des pères change, son rôle aussi. Le père est ainsi souhaité plus présent auprès de son bébé. Dans un partage des tâches avec la mère, comme en atteste l'allongement récent, à 28 jours du congé paternité. Mais qu'en est-il réellement? Et est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact sur le devenir père? 20 papas habitant dans les Hauts-de-France ont accepté de partager avec nous leur vécu et la réalité de leur expérience.
Alors aujourd'hui, je suis avec Geoffrey Hanbic. On est à Saint-Laurent-Blanchy. On n'est pas loin d'Arras, pas loin du centre d'Arras. Et Geoffrey est le papa d'une petite fille qui est née il y a quelques mois.
Je suis Geoffrey Hanbic, j'ai 36 ans. Je travaille dans un cabinet de conseil en ressources humaines. Et effectivement, je suis un papa de deux enfants, et notamment la dernière est Garance, arrivée en avril 2021.
On va parler de pas mal de choses sur l'arrivée de cette petite fille. On va d'abord parler de la grossesse. J'aimerais savoir un petit peu comment vous avez vécu la grossesse de votre compagne.
C'était une grossesse voulue, qu'on n'a pas. C'est pas un projet qu'on a annoncé à la famille et aux proches, comme pour le premier. Voilà, on est allé de notre petit secret, de notre petite découverte vis-à-vis de ce sujet-là. C'est un projet d'enfant qui nous est venu. Post-Covid, si on se dit les choses. On avait l'idée de créer une famille avec un seul enfant, qui est notre premier, qui est Gonzaille. Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte qu'une famille, ça devait peut-être être composé d'un peu plus que d'un seul enfant. Bah, c'est devenu comme une évidence que d'avoir un deuxième enfant. Donc la grossesse, c'est... plutôt bien passé. On a passé les différents écueils des différents examens, un petit coup de stress lors d'un des examens, mais globalement ça s'est bien passé. C'est la parole du papa, hein. Pour le papa ça se passe souvent bien. Pour la maman c'est un peu différent. Le fait d'avoir déjà un premier enfant, ça change quand même pas mal la donne par rapport au fait d'accueillir le premier. Donc on est rodé à certaines choses, un peu moins à d'autres, notamment la cohabitation avec le premier. Mais globalement, la grossesse s'est plutôt bien passée. Bien entendu, les derniers mois un peu plus compliqués, notamment dans ce contexte de Covid, où la toute fin, on commençait à nous expliquer que l'accouchement allait se faire dans des circonstances certainement un peu particulières. Et là, pour la peine, voilà, l'accouchement, en tout cas la période périnatale, a été un peu différente de ce à quoi on s'attendait, en tout cas de ce qu'on a pu vivre précédemment.
Comment vous vous êtes senti justement entouré dans cette période de grossesse, pendant la grossesse? Est-ce que avec votre famille, vos amis ou les professionnels, est-ce que vous vous êtes senti bien entouré?
On a la chance d'avoir mon épouse a sa gynéco obstétricienne en libéral, c'était notre choix, qui était celle qui l'avait accouchée lors de la première grossesse et qui avait proposé un accompagnement en postpartum plutôt de qualité. Donc là, tout son suivi s'est pas fait à la maternité, contrairement à ce qu'on avait fait pour Gonzaille. Donc on a eu la chance d'avoir une écoute certainement un peu différente que dans un contexte centre hospitalier. Certainement la même qualité de soins, donc ça pour nous c'était important, notamment lors du petit coup de stress que j'évoquais tout à l'heure, une vraie écoute de sa part et on a vraiment été accompagnés. Elle était très, 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 très aidante, très dans le suivi à ce niveau-là et vraiment en humanisant beaucoup la relation. Et ça pour nous c'était important parce que bien que c'était pas notre premier, ça restait quand même une grossesse. Après 30 ans pour mon épouse, avec tous les enjeux que ça peut avoir, un deuxième enfant, des choses qui sont pas tout le temps simples à aborder. Après pour le contexte familial ou amical, on a tout le temps été très autonome vis-à-vis de ces sujets-là. Donc c'est un sujet médical, on fait confiance au corps médical.
Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pendant cette grossesse ?
Pendant la grossesse, tout le long, ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, le moment de l'accouchement, et surtout le lendemain de l'accouchement, le moment de l'accouchement a été une période un peu particulière, parce qu'on pouvait comparer avec ce qu'on avait connu avec notre premier. Le contexte Covid a engendré pas mal d'aménagements du protocole. On était cette fois-ci sur un accouchement qui n'était pas par voie naturelle aussi, donc il y avait pas mal de changements en termes de procédure, si on peut parler un peu comme ça, et puis aussi en termes de contexte. La non-faculté qu'avait le papa à être là tout le long du travail, le fait que le grand frère pouvait pas non plus être présent dans le cadre du contexte Covid juste après l'accouchement, donc tout ça, ça a créé une espèce de forme d'inconfort. Et puis, le lendemain de l'accouchement, une découverte fortuite d'une petite malformation chez notre fille. Rien de dramatique, rien d'irréparable, mais des choses qui rendent le quotidien, en tout cas encore à aujourd'hui, très compliqué et qui nous sont tombées dessus. Voilà, on est passé un peu du plafond à la cave, avec l'exaltation de l'accouchement, l'arrivée de cet enfant, vraisemblablement en bonne forme, et puis quelques heures plus tard, la découverte de cette malformation qui allait, mine de rien, engendrer quand même pas mal de mouvements dans notre famille, et puis une forme un peu d'étonnement entre la bonne prise en charge au moment de l'annonce de cette petite particularité, et puis après malheureusement un système qui est pas peut-être pas hyper bien outillé pour accompagner les parents sur les manières d'alimenter cet enfant avec des besoins un peu spécifiques, du matériel un peu spécifique aussi qui était pas présent dans un centre hospitalier qui est plutôt bien référencé en termes de néonatologie. Donc voilà, tout ça nous a un peu surpris, on a dû faire pas mal par nous-mêmes, et ça a été un peu la, je vais pas dire la douche froide, parce que quand c'est dans ces moments-là, on met un peu le pilote automatique, et puis on trouve les solutions, parce que je pense que l'être humain il est doté de capacités et de ressources qui font qu'il trouve les moyens, qu'il trouve les solutions, qu'il va chercher ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais c'est vrai que peut-être si on avait été moins entouré, moins solide, ou rien qu'un parent isolé aurait pu se retrouver dans une situation encore plus compliquée que la nôtre, parce que seul, par rapport à des interrogations très pragmatiques sur comment on nourrit cet enfant, l'allaitement n'est plus possible, on passe au biberon, mais il faut un matériel de puériculture spécifique, pas mis à disposition au sein de l'hôpital, à devoir aller chercher un peu nous-mêmes. Alors l'équipe humainement extraordinaire, hein, à notre écoute, mais les moyens qui malheureusement ne suivaient pas complètement pour une pathologie qui n'est pas non plus rarissime. Hein. Il y a en France 700 naissances, 700 enfants qui naissent avec cette particularité-là par an. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'extraordinairement rare. À l'hôpital où elle va se faire opérer, ils font 2 opérations de ce type par semaine. Donc on n'est pas sur une maladie génétique rare avec une maladie orpheline avec 2 enfants qui naissent par an. On est quand même sur quelque chose qui est assez régulièrement constaté. Et malheureusement, par contre, les équipes médicales savent à peu près ce qu'il faut faire, mais par contre, elles n'ont pas les moyens pour mettre en œuvre, et surtout pour guider les parents. Donc le retour à la maison a été plein de l'interrogation, d'inquiétude, de stress, de pleurs, sur une crainte qu'on pouvait avoir de ne pas y arriver. Alors, bon an, mal an, 9 mois plus tard, ça se passe mieux, c'est pas encore parfait, mais on a trouvé différentes alternatives, différentes techniques pour faire que ça se passe au mieux. On a essayé de partager notre expérience. Mon épouse, avec le temps qu'on a à disposition, a créé un compte Instagram. On a pu partager aussi avec des parents qui se retrouvaient dans la même situation. Et donc des fois, on est en conseil, on en donne, parce que mine de rien, on voit à J plus 9 mois le parcours qui a été fait, les écueils, les choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, pour les partager avec d'autres parents. Et puis aussi, des fois, c'est nous qui allons nous rassurer auprès de parents qui ont leurs enfants maintenant, qui ont 7, 8, 10, 12, 15 ans et qui sont passés par ces moments-là, et on voit que la lumière est au bout, quoi. Et ça c'est quand même assez rassurant, même si on sait que pendant les moments ça va être quelque chose de compliqué. Et puis le point d'orgue un peu de cette phase, ça va être son opération, parce que c'est quelque chose qui se traite. Hein. C'est une chirurgie pas extrêmement lourde, hein, mais une chirurgie tout de même pour un enfant de 10 mois. Donc ça va être le mois prochain, 4-5 heures d'opération pour voilà, sécuriser un peu cet aspect-là et puis faire que demain elle ait une vie encore un peu plus normale.
Dans votre rôle de père, comment vous avez vécu tout ça? Est-ce que vous avez eu des angoisses particulières? Est-ce que vous vous êtes senti aussi entouré, aidé par d'autres gens, des conseils qui venaient d'ailleurs, d'autres peut-être papas ou des professionnels qui vous ont écouté? Est-ce que vous avez été aidé pour surmonter ce passage difficile?
En l'occurrence, je me qualifie comme étant plutôt un papa investi. Alors, je pense qu'on ne l'est jamais vraiment assez dans nos vies actuelles, prises par le boulot, etc. Mais voilà, s'il y a un curseur à placer sur le papa investi ou papa moins investi auprès de ses enfants, je me considère plutôt dans la partie de ceux qui sont investis. Et puis, le fait que la malformation, la petite pathologie qu'elle a, rende impossible l'allaitement, par la force des choses, crée un lien différent avec elle de celui que j'ai pu créer avec mon fils, que mon fils a été allaité, parce que mine de rien, je pouvais, en tout cas, j'aurais pu, je l'ai pas tout le temps fait, j'aurais pu gérer tout seul l'alimentation. Et donc, bon an, mal an, on aurait pu imaginer que une place un peu particulière soit prise par le papa en se disant, voilà, l'alimentation peut être complètement autonome vis-à-vis de la maman. Faire un biberon, on n'a pas besoin de maman pour faire un biberon. Et pour autant, on s'est rendu compte que, vu la spécificité de son alimentation, avec les difficultés, la lenteur, le matériel un peu spécifique, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui ne court pas les rues, qu'on a dû créer quasiment nous-mêmes, hein, et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout bricoleur, ça a conduit à ce que les parents, dans ce contexte-là, ils devaient être encore un peu plus fusionnel. Ça a crié, ça s'est écharpé sur le sujet, mais on était à trois dans cette galère, hein, parce que le mot il est pas le bon, mais on était à trois sur ce chemin-là. Voilà, ça a jamais été que maman qui a des difficultés d'allaitement, parce que ça c'est des choses qui arrivent, et souvent c'est la mère, hein, qui doit plutôt s'en occuper, c'est des choses un peu particulières. Là ça a vraiment été un combat mené à trois, avec des victoires, des défaites, et on a essayé autant que faire se peut de valoriser et puis de fêter les victoires. Un bib qui était fini, un bib de 120 à l'époque qui était fini, c'était extraordinaire, c'était une victoire. Donc à ce titre-là, voilà, mon rôle de papa a été vraiment d'être partie prenante, vraiment, au même titre, je pense, que maman, contrairement, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, au sujet des premiers mois de vie quand il y a de l'allaitement, et même à aujourd'hui, en tout cas, je m'en rends compte, le lien que j'ai avec ma fille n'est pas du tout le même que le lien que j'ai avec mon fils. Ce n'est pas les mêmes enfants, et je ne suis pas en train de comparer, mais c'est vrai que voilà, les moments de repas étaient plutôt l'exclusivité de maman quand c'était mon fils, et là aujourd'hui ça peut plus facilement être partagé, et avec des moments qui sont dédiés à l'un et à l'autre. Donc à ce titre-là, j'ai une relation en tant que père qui est différente avec ma fille qu'avec mon fils.
Alors, est-ce que vous avez bénéficié d'un congé paternité? Si oui, de quelle durée?
Alors, j'ai bénéficié d'un congé paternité et à trois mois près, j'aurais pu avoir le 28 jours. J'ai eu le 14 jours, ce qui était déjà très bien. Le 28 jours, je trouve que c'est une super avancée sociale, parce que ça permet de remettre un peu le papa aussi au centre du débat. Et je pense que si demain, et je pense même qu'aujourd'hui, si on veut que les pères occupe la place qu'il mérite ou qu'il devrait prendre, après chacun y verra comme il le souhaite, cet aspect-là devrait être peut-être encore un peu plus développé. 28 jours, c'est extraordinaire, en même temps c'est tellement peu, mais 14 jours c'était déjà très bien, et en même temps c'est tellement peu. Et je prends ma situation avec ma petite, 14 jours c'était très bien. Si j'avais pu faire un mois, deux mois, trois mois, je pense que j'aurais pu les faire, je les aurais pris, c'est certain, parce que ça nécessitait vraiment d'être au plus proche de sa petite famille à ce moment-là.
Aujourd'hui, donc on est en début d'année 2022, qu'est-ce que ça signifie pour vous être père?
Qu'est-ce que ça signifie être père?
Qu'est-ce qu'on attend d'un père aujourd'hui?
Je pense que, en tout cas chez moi, pour moi, le passage de la non-paternité à la paternité a été très très forte avec mon premier. Parce que voilà, j'ai pris conscience de la chose. Je dis pas que quand on passe du quatrième au cinquième enfant, ça fait rien, je dis pas ça. Mais je pense vraiment que le changement, le paradigme de vie est nettement plus fort quand on passe de sa vie d'homme à sa vie de père. Et être père, ça n'empêche pas d'être un homme. Mais pour moi, voilà, le père, c'est celui qui a encore atteint, dans ma conception, un échange encore au-dessus. Là, aujourd'hui, avoir un deuxième enfant, moi, ça m'aide à moins tout centrer sur le premier. Et ça, pour moi, ça, c'est un vrai de vrai sujet. À se dire aussi qu'aujourd'hui, on constitue une vraie famille et permettre justement à mon fils d'avoir cette petite sœur à ses côtés et qui est pour moi c'est une richesse incroyable. J'ai mis du temps à être convaincu pour plein de raisons de la nécessité de créer une famille avec deux enfants. Je considérais pour des prises en considération peut-être bassement matérielles, que c'était simplement plus simple à gérer, on offrait plus à un enfant quand il était enfant unique, etc. Sauf qu'en fait, tout ça, ce n'est que matériel. La richesse des échanges et du lien créé entre mon fils et ma fille, ça, pour la peine, ça n'a pas de prix. Et on s'en est encore un peu plus rendu compte, même avant la naissance, quand on a dû dire au premier... Bon, maman et petite sœur vont devoir rester à l'hôpital quelques jours, tu pourras pas les voir. Et de cette absence d'un être qu'il ne connaissait pas encore, concrètement, il avait vu dans le ventre de la mère, et psychiquement le lien était déjà créé, mais de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, elle lui manquait déjà. Et ça, le contexte Covid, plus la patho, a pas aidé à créer un lien rapide. Ils se sont vus... au bout de 9 jours. Et ça, mine de rien, c'est pas anodin. Il a été séparé de sa mère, parce que sa mère restait là-bas, et il a fait connaissance de sa sœur, qui a J+9. Donc, je sais aussi que pour lui, c'est quelque chose qui l'aura marqué, je pense que ça continue à le marquer, il en garde un vrai souvenir, et ça change vraiment ma manière de voir la paternité. On n'est pas le... Je ne suis plus le père d'un enfant, je suis le père de deux. Et deux enfants très différents. Et ça change beaucoup la perception qu'on a de son enfant et puis de l'idéal qu'on pourrait transposer en lui. Parce qu'en fait, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais en fait, le plus important, c'est qu'ils aillent bien. Et avec le premier qui a tout le temps, comme tout le monde, comme chaque enfant, il était malade, etc. Mais globalement, tout va bien, il mange bien, etc. Des choses basiques. J'avais jamais su ce que c'était qu'un enfant qui mange pas bien avant, qui mange pas bien, qui mange difficilement avant de connaître ma fille. Et donc on sourit en se disant mais à l'époque avec le premier qu'est-ce que ça c'était facile. Contrairement le premier il dormait pas du tout, elle dort beaucoup mieux. Donc juste pour se dire aussi que voilà qu'il y a rien qui est simple, il y a rien qui est parfait, mais tout est heureux. Mais en tout cas c'est ça que nous avons envie de retenir de ces moments-là.
Et en quoi un père d'aujourd'hui donc comme vous est-il différent d'un père d'il y a quelques décennies, comme votre propre père peut-être? Comment vous évaluez cette différence de génération?
Je pense qu'on se construit en regardant des modèles. Je suis pas sûr qu'on se construit en répétant les modèles, en fonction de son degré de maturité, ce qu'on peut en faire, etc. Je pense qu'on se construit en analysant ce dans quoi on a gravité. Mon père, dont je parle très rarement, s'est construit dans avec le modèle de son père, en se disant, en tout cas c'est souvent comme ça qu'il nous l'a répété, « je serai jamais comme ça ». Je pense que ça a un côté un peu incantatoire, et puis au bout d'un moment, sur certains aspects, pas surtout, il y a peut-être des aspects qui sont revenus. Moi aussi, je pense que je me construis, non pas en opposition, mais en se disant, voilà, qu'est-ce que j'ai pu voir dans... ce qu'on m'a donné à voir côté éducation paternelle, que j'ai pas envie de transposer. Je pense qu'il y a un rééquilibrage du rôle de la maman et du papa pour une définition du rôle du parent, qui aujourd'hui, je pense, elle est fondamentale pour l'équilibre de nos enfants. Malheureusement, on a encore des institutions, des organisations qui dupliquent tout cas qui déploie, qui favorise des modèles un peu archaïques du rôle du père et de la mère. Et la première institution qui est perfectible, hein, et je ne jette pas la pierre, c'est l'école à ce titre-là. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a certainement la chance, en tout cas moi, j'ai la chance, d'avoir pu prendre du recul par rapport à la manière dont mon père gérait la chose, me dire voilà, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de moins bon là-dedans. J'espère en garder le bon et puis ne pas en garder le moins bon, et puis être en contact. Je pense qu'en fait ça n'a pas de prix. Je ne m'en rendais certainement pas assez compte avec mon premier de l'importance qui est de passer du temps, et mieux vaut passer c'est pas du temps pour passer du temps, hein, c'est dédier du temps, être faussement 8 heures avec lui puis à côté de ça pas lui accorder d'attention. Je pense que ça sert à rien. Mieux vaut pas être là de la journée, par contre quand on est là, être 100% là. Et ça, c'est peut-être quelque chose, pour plein de raisons, que j'ai pas trop connu, moi, avec mon père, du fait d'horaires postés, etc. Effectivement, on n'a pas les mêmes vies. Et puis, de temps d'attention. Et ça, pour moi, ça, c'est très important. Je pense pas que c'est tant la présence que la qualité de la présence qui joue aujourd'hui. Et je suis pas parfait, loin de là, le nombre de fois où je check mes mails en même temps qu'il est là. Mais en tout cas, voilà, essayer de leur sacraliser du temps. Parce que voilà, pour moi c'est ça qui a de l'importance et qui est différent, en tout cas je l'espère, par rapport aux générations d'avant.
Pour les jeunes papas qui nous écoutent, les jeunes futurs papas, avec le recul, avec ce que vous avez vécu, les 9 mois qui viennent de s'écouler, quels conseils vous pourriez leur transmettre ?
Tout dépend comment ils sont. Je suis de nature plutôt à essayer d'anticiper, à essayer de tout contrôler et a fortiori à stresser pour plein de sujets. J'ai envie de leur dire que le pire n'est pas certain. Même si ça semble compliqué, il y aura toujours un moment ou un autre où ça tournera et ça ira mieux. Soit pendant la grossesse, soit pendant les premiers mois. Et puis, même si ça semble compliqué, ce qui importe, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est mon enfant a 2 ans, ton enfant a 2 ans, ils sont tous les deux à la même école. Mais par quelle étape tu es passé ? De quelle manière tu as grandi avec lui, il a grandi avec toi ? Tu as appris des choses avec lui, il a appris des choses avec toi. Et tout ça, c'est d'une richesse incroyable. Il faut vraiment, en tout cas, voilà, c'est mon petit conseil de petit papa, faut vraiment prendre ce temps-là et puis de se dire que tous ces moments-là, c'est peut-être pas les meilleurs. Hein. On entend souvent petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, gros problèmes, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, apprécier chaque moment à sa juste valeur. L'idée, c'est pas d'amener, en tout cas ma conception, c'est pas d'amener un enfant à 18 ans. Oui, il aura un moment 18 ans, 25 ans, 35 ans, sera toujours votre enfant, mais partagez avec lui ces moments de chemin. Et ça, pour moi, ça, c'est ça le plus important.
Et votre petite fille, vous avez envie de lui dire quoi pour les mois qui viennent ?
Ce que je lui dirais, voilà, c'est qu'il faut qu'elle ait de la force, parce que des situations pires existent, qu'elle est courageuse, mais je sais qu'elle le sera et qu'on sera, à ses côtés. Qu'elle garde son sourire, parce que c'est que mon deuxième enfant, et clairement elle n'aura pas de troisième, j'ai jamais vu un enfant être tout le temps souriant. La première chose qu'elle se fait le matin, c'est qu'elle sourit, et ça, j'ai envie qu'elle ne le perde jamais, parce que je pense que c'est sa grande force dans la vie. Elle sourit à la vie.
Cette série de podcasts a été réalisée par BM Music Prod en collaboration avec Mélissa Ferdouze, chargée de projet au sein de l'association Auréane, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.